Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, je vous parle en ce 30 octobre, veille d'Halloween. D'ailleurs, on a eu droit à un spectacle d'horreur hier au Centre Bell lors du match entre les Canadiens et Kraken de Seattle. On va parler de tout ça aujourd'hui à l'émission avec Guillaume Lepage qui va être notre invité. On va aussi avoir un autre invité, Martin Biron, qui va être là, va venir nous parler un peu de les gardiens canadiens, ce qu'il voit, lui, pour la confrontation des quatre nations qui va être le représentant du Canada. On va parler d'autres sujets aussi avec Martin, donc ça va être en deuxième portion d'émission. Mais aujourd'hui, avec moi au balado, un revenant, Sébastien Deschambault. Salut Seb!
Salut Nick!
Écoute, ça faisait longtemps, dernière présence, balado de pouleuse, je crois, en début de saison.
Probablement, ou d'aperçu de saison. Là. Donc,
aperçu de saison, exactement, ouais. Donc,
on a été occupés, plein d'invités.
Ben écoute, c'était il y a un mois. Hein, à la date d'aujourd'hui, c'était il y a un mois. Donc, bien heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler de tout ça. Avant de se lancer, Seb, ben écoute, si vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, ben sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez assurément nous trouver. Suivez-nous aussi pour être certain de ne jamais rater le moindre épisode. Seb, avant d'accueillir notre premier invité, je veux faire une cheap plug, comme on dit, pour ce qu'on peut trouver présentement sur le site de LNH.com, c'est-à-dire les textes de notre collègue JF Chaumont, qui est toujours ou presque assez souvent merci sur le balado. Là, il est parti. Il est en mission du côté de l'Utah, JF, et il nous ramène plusieurs textes présentement. Il a parlé avec André Tourigny, il a parlé avec Mikhail Sergachev, il a parlé avec Clayton Keller, Maverick Lamoureux. Écoute, il ramasse là, pas mal de stock présentement un peu partout, parce que là, en plus, il y a des joueurs, des équipes qui s'en viennent. Jonathan Huberdeau, probablement, va pouvoir s'entretenir avec lui.
Anthony Manta, Jonathan Huberdeau, parlez également à Will Smith, Tyler Toffoli. En bon français, il passe la gratte présentement. En Utah.
En Utah, donc vous pouvez lire ça sur le site de LNH.com, puis JF va être sur le balado la semaine prochaine. On va pouvoir parler de tout ça. Je suis certain que ça va être très intéressant. Seb, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé hier, le match des Canadiens. On va faire ça avec notre invité, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume!
Salut, les boys!
Comment tu vas?
Ça va très bien. Courte nuit, mais probablement moins courte que celle de Martin Saint-Louis.
Courte nuit, je te comprends, parce que moi aussi, j'étais du côté du Centre Bell hier, et oui. Toi, t'as pas d'enfant, donc évidemment, tu t'es levé beaucoup, beaucoup plus tard que moi. Oui, courte nuit pour Martin Saint-Louis, qui doit se demander un peu... Écoute, ça allait si bien. C'était, tu sais, c'est l'Halloween, là. Jekyll and Hyde, là, l'histoire de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, qui se transformait en monstre la nuit, mais qui était un être très respectable de jour. C'est un peu ce qu'on a vu des Canadiens dans les derniers jours. Si on remonte à la dégelée contre les Rangers de New York, par la suite, deux victoires. L'optimisme est au rendez-vous. Des victoires contre les Blues et les Flyers en match dos à dos, back-to-back. Et là, hier, ben ouf, dur retour sur terre. Et c'est drôle parce que à la suite de l'entraînement d'avant-match, j'en ai parlé un petit peu avec Cole Caulfield, puis Martin Saint-Louis a évoqué le sujet. Est-ce qu'il y avait un risque? Il faut que tu gères un peu les hauts et les bas, surtout quand tu es une jeune équipe. Jamais monter trop haut, jamais monter trop bas. Puis hier, c'est, à mon avis, en début de match, c'est ce qu'on a vu. C'est une équipe qui a pris les choses un peu trop pour acquis, peut-être, puis ça a mené à... Écoute, c'était quoi? C'était 4-0 après 11 minutes, là, environ, là, 11 minutes, quelques secondes.
10 minutes 33,
Guillaume.
10 minutes 33,
le ton était donné. Il y a plusieurs personnes peuvent être à blâmer pour cette équipe-là, mais tu sais, au final, il y a quand même un effort ultime qui n'était pas là en début de match où faut que tu arrêtes, là. Faut que tu fermes la porte, là, à un moment donné. Là.
C'est ça, c'est l'aspect que je trouve le plus inquiétant, là, je le mets entre guillemets parce que c'est pas la grosse panique, là. Mais... tu sais, dans tout ça, avec le match contre les Rangers la semaine dernière puis celui d'hier, c'est que le Canadien semble incapable de freiner la glissade quand elle commence. Mm-hmm. En début de match, OK, tu donnes un but sur le premier tir. Le deuxième vient rapidement après. Je sais pas pourquoi, mais cette équipe-là n'est pas capable de dire « OK, là, c'est assez. On n'en donnera pas deux autres dans les cinq prochaines minutes qui viennent. On va... Je sais pas, on va essayer de répliquer. » Puis tu sais, tu le vois quand même. Le Canadien il a eu des chances en début de match. On s'en parlait, c'était un... Des mêlées devant le filet. Mmh. Il y a eu quelques poteaux aussi. Je ne sais pas si c'est en première ou en deuxième. Mais en tout cas, on a manqué,
des première, chances. C'est en première, une séquence de Lane Hudson. Là, qui... ben, d'ailleurs, les Canadiens auraient pu revenir dans le match. C'était 4-1. On a eu deux poteaux. Dan Basement parlait avant le match. Puis après le match, puis il disait le premier but, dès le début de la deuxième période, c'est ça qui a cassé les jambes. Parce que jusque-là, les Canadiens étaient... Tu sais, on a bien fini la première période, mais somme toute, l'effort complet.
Non, c'est ça. C'est si ça fait 4-2, ben on a peut-être un match différent, mais quand tu te creuses un trou de 4 buts en 10 minutes 33 en début de match, c'est dur à remonter. Donc moi, c'est vraiment une question de comment on freine ça quand ça commence. Le mauvais début de match, c'est beau. On semble pas capable de le mettre derrière nous puis de dire OK, on regarde vers l'avant, puis on va chercher l'étincelle justement dès le moment où ça commence à mal aller. Là. Parce que ça a été le même scénario que dans le match contre les Rangers. Puis ça a fait la même chose qu'à la remontée, je me sens de guillemets, quand le Canadien a marqué. Mais là, on se disait, si le Canadien fait 4-2, ben peut-être. Mais là, l'autre équipe revient avec un but, puis après ça, on ferme les lumières, c'est terminé. Il n'y a pas de démonstration de caractère, d'intensité plus qu'il faut. Honnêtement, hier, en fin de match, là, Slavkovski qui renverse un joueur sur le banc, puis là, les petits accrochages, le rififi, à un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est pas à la fin du match qu'il faut que tu fasses ça. C'est le Kraken de Seattle. Tu vas rejouer contre le Kraken au mois de mars. T'as rien à préparer. Je veux dire, c'est en première période qu'il faut que ça se passe. Il faut qu'il y ait une étincelle après deux buts, après trois buts. Martin Saint-Louis a appelé un temps d'arrêt après le troisième but.
C'est pas après le quatrième?
Après le quatrième.
Après le quatrième, oui. Il s'est rien passé de concret vraiment. Après ça, il n'y a pas eu de tentative de changer le vent de côté et tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment l'élément qui me.
Mais justement, est-ce que Martin Saint-Louis n'aurait pas dû appeler le temps d'arrêt un peu plus tôt? T'sais, après le quatrième but, je trouve qu'il était. Il y avait déjà justement en 10 minutes 4 buts. Puis, je le disais tantôt, les Canadiens ont un peu mieux joué durant la suite de la période. On a marqué tout ça, mais quand même, j'aurais aimé voir Martin Saint-Louis parce que ça demeure une jeune équipe. Une équipe qui perd ses repères rapidement quand elle tire de l'arrière rapidement un but, deux buts, trois buts. Je pense que ça n'aurait pas été une mauvaise chose, surtout avec le résultat qu'on a vu par la suite.
En même temps, je pense qu'après le deuxième but, il y a eu la première pause publicitaire. Donc, légère amélioration par rapport au match contre les Rangers. On n'a pas donné de placement avant la première pause publicitaire. Donc, je pense que là, il y a eu un petit moment où on a pu dire « Hey, les boys, le match est commencé ». Après ça, troisième, quatrième qui sont venus rapidement. Fait que, tu sais, je pense qu'il essayait de gérer aussi, avec les pauses puis les moments où tu peux essayer de brasser la cage de tes joueurs, là. Mais je sais pas, tu sais, je pense qu'il a fait son possible
pas
pour essayer.
Non plus, c'est ça, ouais.
Il y a aussi l'identité de l'adversaire. Tu sais, la semaine dernière, les Rangers, c'est une puissance de la Ligue nationale. Mm-hmm. Plusieurs éléments clés des Canadiens étaient blessés. Donc, je sentais que c'était pas un bon match, là. C'était vraiment pas un bon match, mais la défaite, le résultat, ça s'explique un peu. Tu joues contre une des meilleures équipes de la Ligue, avec une des plus jeunes équipes de la Ligue qui manque plusieurs très bons joueurs. Donc la défaite s'explique. Après ça, les Canadiens affrontent deux adversaires prenables, puis ils gagnent ces deux matchs. Là, tu vas dire, OK, on vient devant nos partisans, devant le Kraken de Seattle, qu'on va pas méprendre pour une puissance de la Ligue. Puis de sortir flat comme ça, c'est un petit peu confondant.
Un joueur qui a eu la difficulté hier, c'est Kirby Dach, ce qui est dommage parce que Dach venait de connaître trois bonnes rencontres depuis l'absence de Juraj Slafkovský. Bon, Slafkovský qui est revenu au jeu hier, on l'a placé sur le deuxième trio, Dach sur le premier. Ça aura duré même pas une période. Ça aura duré environ une quinzaine de minutes avant que Dach soit, écoute, là, il a été on a remis Slavkovski sur le premier trio, puis ensuite Dak quoi, s'est retrouvé sur le quatrième, hein, Guillaume, éventuellement.
Ouais, il a fini sa soirée sur le 4.
Exactement. Il a fini
sa soirée sur le banc,
en
fait.
Oui.
Ouais, aussi. Ouais, ben ça, en tout cas, c'est ça, exactement. Mais oui, parce que Dak a manqué son assignation sur le premier but. A manqué aussi, lui puis Mayu, sur le but de Brandon Montour, le deuxième de Montour, le sixième du match en deuxième période. Et c'est là qu'on l'a laissé sur le banc jusqu'à la fin de la deuxième ou environ. Tu sais, t'es Kirby Dak, t'es un joueur qui n'a pas joué l'année dernière, t'es un joueur qui a un début de saison plutôt lent, tu connaissais des bons moments, mais là, soudainement, tout plante dans ce match-là. Comment vous êtes l'équipe, vous êtes Martin Saint-Louis, vous le laissez à lui-même pour essayer de gérer cette situation-là, ou c'est un joueur qui va avoir besoin d'un peu d'aide? Tu sais, ça va être long, le Kirby Dak, là. Il revient de loin, le Dak, là.
Ouais, ben, tu sais, je pense que d'un point de vue physique, c'est une chose, là. Tu sais, je veux dire, on revient d'une longue blessure, ça demande une période de réadaptation. Au niveau de jeu, puis à ce que ça demande de jouer à tous les deux soirs dans la Ligue nationale. L'autre chose, je pense, puis j'ai l'impression que ça commence à titiller Martin Saint-Louis, c'est au niveau des erreurs mentales, parce que tu dis, il manque ses assignations. T'sais, c'est une question de compréhension du travail qu'il y a à faire. C'est pas relié à une blessure, c'est vraiment, ça se passe entre les deux oreilles. Est-ce qu'il manque de concentration? Est-ce qu'il y a de la misère à comprendre le système de jeu? C'est toutes des questions qui sont légitimes. Moi, hier, Martin Saint-Louis, deux fois dans son point de presse, comme pointant, on parlait des situations sur les mises au jeu, puis il dit « ça prend 5 gars pour faire le travail sur une mise au jeu. C'est pas une histoire de défenseur, de gardien, de ci, puis de ça. C'est 5 gars. » Puis là, en regardant les reprises des jeux, ben on se rend compte qu'il y a un gars qui revient souvent, qui fait pas son travail, c'est Kirby Dak. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'était Martin Saint-Louis quand on lui a demandé ce qui l'avait le plus déçu dans ce match-là. Je pense qu'il y a eu un silence de 10 secondes avant qu'il réponde. Faut que je regarde le tape, mais d'après moi, dans sa tête, c'était est-ce que je lance Kirby Dak en dessous de l'autobus ou est-ce que je me garde une réserve? C'est garder une réserve, mais tu sais.
C'est pas un mauvais choix. Là.
Je pense qu'on. Non, c'est ça. Puis je pense qu'on s'en est parlé, Nick. Hier, moi, j'ai pas trouvé que c'était un grand vote de confiance à l'égard de Kirby Dak, de Martin Saint-Louis, d'aller dire dans sa conférence matinale de « Ah, Juraj va retourner sur le premier trio. » Alors que Dak connaît des bons moments avec Suzuki et Caulfield. C'est comme de dire « Ben là, t'es là temporairement, mais dès que ça va se mettre à dérailler, on va remettre Juraj. » Puis je comprends, en termes de position, peut-être qu'on voit Dak au centre de la deuxième plutôt qu'à l'aile du premier trio, mais quand même, pour un joueur qui commençait justement à prendre ses aises puis à connaître des bons moments, de dire ton séjour, tu es sur la corde raide, puis dès que ça dérape, on va remettre Slavkovski. Je pense pas que ça a été très bon non plus pour la confiance de Kirby Dak.
Non, surtout que Slavkovski n'a pas été transcendant non plus hier. Non, là, ça a changé la dynamique du premier trio quand on a fait l'échange Dak pour Slavkovski. Donc, c'est double raison pour Dak de faire comme bon. Je faisais-tu vraiment moins bien que ça?
Le CH a marqué dès que Slavkovski a été mis sur le premier trio. Slavkovski a été se placer devant le filet. La rondelle l'a touché. Puis bon, ensuite, c'est Caulfield qui a marqué. Mais effectivement, par la suite, ça n'a pas été. Mais c'est que la citation exacte était c'est sûr que Slavkovski va retourner sur le premier trio. Est-ce que c'est. Dès ce match, c'était carrément, ouais, t'sais, est-ce que je fais ça en deuxième période ou j'attends un peu? Bon, le but était de voir si le poids d'Armia et de Slavkovski pouvait bien servir New Hook. Finalement, je ne suis pas certain que Martin Saint-Louis ait eu le temps de prendre cette décision-là, de juger de la qualité de cette unité-là, parce que bon, on a rapidement changé de tout. Ça n'a pas été le meilleur match de Samuel Montembeau, ça c'est assez évident. Ce qui est dommage, là, parce que quand même, il avait bien rebondi samedi à la suite de la défaite, la cuisante défaite contre les Rangers. En même temps, bon, il y a eu des tirs qui ont été déviés, il y a eu des assignations défensives qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été respectées non plus. Là, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Pour le prochain voyage, Caden Goulet, Justin Barron, on semble s'approcher d'un retour au jeu. Les deux étaient à l'entraînement hier, on portait des gilets de joueurs réguliers, si je peux dire. Le retour de Goulet, le retour de Barron, qui, surtout Barron, qui connaissait un bon début de saison, vous vous attendez à quoi? Est-ce que ça fasse comme changement là, au niveau de la qualité du jeu défensif, bien évidemment, parce qu'il y a plusieurs joueurs, je pense, qui sont pas dans leur chaise présentement.
Ben écoute, il y a plusieurs joueurs qu'on voit que la confiance est fragile. Albert Jacquay a eu besoin d'une bonne tape dans le dos de Stéphane Robida après le troisième but, je pense. Un beau revirement derrière le filet aurait mérité une belle mention d'aide là, sur le but de Bjorkstrand. C'est des joueurs qui jouent pas dans la bonne chaise, ils jouent pas avec confiance, et comme ils jouent pas dans la bonne chaise, leur confiance en souffre de plus en plus. Donc, Kaden Goulet, plus le temps avance, plus on se rend compte que chez les Canadiens de Montréal, c'est vraiment lui le général. Donc, quand ton général n'est pas là, ben, les troupes s'éparpillent un petit peu, puis c'est dommage de ne pas pouvoir évaluer cette équipe-là avec sa brigade défensive, parce que c'est pas un secret que la brigade défensive des Canadiens, c'est l'avenir de l'équipe, mais c'est aussi, dans le présent, cet avenir-là est encore flou, parce qu'ils sont tellement jeunes, on ne peut pas les lancer dans la gueule du loup. Et c'est difficile d'évaluer où est-ce qu'ils en sont quand le chef de file n'est pas là. C'est sûr et certain que si Kaden Goulet revient au jeu, ça replace un peu tout le monde dans la bonne chaise, puis au niveau des confrontations, surtout sur la route. C'est la plus grande nouvelle que pourrait pas avoir Martin Saint-Louis si ça se confirme.
T'as raison, Nick, de parler de Justin Barron qui, tu sais, je pense qu'il y a un mois, on aurait fait le même podcast puis on aurait dit, ben là, Justin Barron, qui joue ou qui joue pas, c'est pas si grave. Là. Tu sais, c'est un joueur qui cherchait un peu sa place dans cette brigade-là.
Soyons francs, on l'a fait même. C'était pas ça.
Ça, ça se peut. Faudrait retourner dans le temps.
J'avais dit, c'était un peu l'enfant que les parents aiment moins dans une famille de 8. Là. Bon, ben finalement, il a monté dans l'estime de tout le monde, Barron, cette année-là.
Ouais, on se rend compte que la marche entre Justin Barron et Logan Mailloux est un petit peu plus grosse que ce qu'on pensait au départ. Là, on se disait, ben Mailloux, grosse saison dans la Ligue américaine, il est peut-être prêt à en prendre. Puis là, on pensait qu'au terme du camp d'entraînement, il allait percer la formation de l'équipe. Finalement, il a commencé à Laval et est revenu avec les blessures. Mais Logan Mailloux, depuis quelques matchs, récolte des points. Là, mais défensivement, honnêtement, je ne suis pas en train de dire que Justin Barron est un pilier défensif, mais depuis le début de la saison, Justin Barron est meilleur défensivement que ce que Logan Mailloux a montré dans les derniers matchs d'audition. Donc, je vois ça comme une bonne nouvelle aussi quand tu regardes l'état de la défensive, puis des fois les assignations et tout ça, on se mêle un peu sur la patinoire, tandis que un Goulet puis un Barron ont l'air d'avoir une bonne maîtrise quand même du système, puis un petit peu plus d'ordre là, dans le jeu défensif quand ils sont dans la formation.
T'sais, c'est là que tu vois la différence entre l'expérience d'avoir joué. Barron, c'est quoi? C'est...
On doit approcher une centaine de matchs.
Environ une centaine de matchs dans la Ligue, puis un gars qui débarque fraîchement dans la Ligue américaine.
Là, en plus, il a toujours été reconnu pour ses habiletés offensives, c'est plus ça, que défensives plus, aussi. Là. Je pense pas qu'on va faire de Logan Mailloux un général en défensive, mais quand même, en ce moment, c'est difficile. Là, je me souviens, je pense que c'était le match contre les Rangers là, où Martin Saint-Louis a commencé vraiment à prolonger le temps que Mailloux passait sur le banc parce que honnêtement, c'était une aventure chaque fois qu'il mettait le pied sur la glace. Donc, c'est difficile quand un entraîneur n'a pas confiance en ses effectifs.
Puis, c'est pas mauvais pour un, c'est pas mauvais pour un défenseur qui en est à l'étape de la carrière où Logan Mailloux est, d'avoir un échantillon, de voir où j'en suis. C'était, tu sais, Martin Saint-Louis l'avait dit, là, on va le revoir là, dans la ligne orange. Là. Il va revenir à Montréal cette saison. On va avoir des blessures, c'est sûr et certain. Puis, comme tu as dit, Guillaume, offensivement, quand Mailloux est installé ou quand il transporte la rondelle en zone adverse, tout va bien. Le problème, c'est quand c'est creux dans son territoire. Donc, d'être capable de voir, de faire une évaluation franche de où est-ce qu'il en est, que les entraîneurs du développement puissent identifier les éléments de son jeu où il y a encore du travail à faire. Et puis, d'aller retourner à Laval, c'est pas une punition, c'est juste une occasion de travailler sur son jeu dans un calibre dans lequel il y a plus de chances de bien faire les choses de la bonne façon, puis il va revenir éventuellement.
Et pas scraper ta confiance, surtout. Oui, ça fait mal d'être retourné dans la Ligue américaine, autant pour l'estime de soi que pour le salaire, là. Mais au final, c'est pas mieux d'être en haut puis d'enchaîner les mauvaises performances, puis soudainement complètement perdre tes repères. Donc, tu sais, je pense que c'est ça aussi qu'il faut éviter pour Logan Mayo, puis le retour de Barron, le retour de Goulet. Bon, ça risque, quand on regarde le compte, là, ça risque de mener à une rétrogradation. Est-ce que ce sera Mayo? Est-ce que Jekai n'a pas passé par le ballottage non plus? Donc, est-ce que ça pourrait être Jekai qui, lui aussi, se cherche en début de saison? Il va avoir des réponses, mais oui, je pense que ça va être plus positif pour les deux de peut-être aller faire un petit voyage en bas, là, comme tu dis, sur la ligne orange du métro.
Puis Jacky monte des flashs depuis quelques matchs. Là. Il a transporté la rondelle. Il monte des flashs, mais
la confiance est fragile.
Puis tu sais, on l'a vu hier, là, quand c'était le temps de partir du Rififi puis tout ça, même lui, on dirait qu'il est plus certain de la façon de le partir, le Rififi, parce que il a été pénalisé, il a eu des pénalités inutiles depuis le début de la saison qui ont coûté cher, même on peut remonter jusqu'à la blessure de Patrick Laine en début d'année. Oui, c'est la réalité d'une jeune équipe comme ça, de gérer tous ces jeunes-là qui se développent. Et c'est pour ça aussi peut-être les Canadiens, peut-être qu'il y avait une vague d'optimisme, mais peut-être que c'était une houle. C'était pas une vague qu'on aurait peut-être dû avoir chez les partisans. Guillaume, la visite du Kraken était intéressante parce qu'il y avait énormément de sujets, pas sur la patinoire, qui retenaient l'attention. Je pense que le premier, c'était l'arrivée, le passage de Jessica Campbell à Montréal. Campbell, qui est la première entraîneuse adjointe à temps plein dans la Ligue nationale de hockey cette année, qui découvre un peu. Bon, on la découvre. Elle est responsable, entre autres, du jeu de puissance chez le Kraken. Tu y as parlé. Parle-nous un peu de son parcours, parce que c'est pas rien là, d'être la première femme dans un monde qui est hyper fermé, c'est-à-dire le hockey professionnel.
Non, ça, c'est une ancienne joueuse, premièrement. Donc, ouais. Elle a joué la game,
oui,
la fameuse game. Donc, elle a un parcours qui est très respectable dans le sens où elle a fait ses preuves à toutes les étapes de son cheminement. T'sais, elle a travaillé avec des joueurs de la Ligue nationale. Je pense que Dan Bazma expliquait justement qu'il a vu son nom apparaître sur le radar quand elle a travaillé avec une vingtaine de joueurs de la Ligue nationale au niveau de la remise en forme juste avant la bulle, là, pendant la pandémie. Donc, les joueurs faisaient appel à ses services déjà pendant l'été. Puis là, à ce moment-là, on a besoin d'aide pour...
C'est pas rien. Les joueurs payaient là, pour...
Elle avait des...
C'est pas vrai que les joueurs vont l'écouter, puis tout ça, c'est une femme. Hey, les joueurs payaient pour ses services. Puis tu sais, pas des joueurs junior 3A là, qui veulent faire du power skating. Là. Des joueurs nationaux de hockey, Edmondson Joel Edmondson a été un des
Brent
premiers.
Brent Seabrook, Matthew Barzal, c'est des gros noms qui ont décidé de l'embaucher, parce qu'avant, elle faisait ça, je pense, à titre privé. Là. Donc, il l'embauchait pendant l'été, puis là, au moment du retour au jeu pendant la pandémie, bien, on a fait appel à ses services, puis c'est là que son nom a commencé à circuler. Elle a été adjointe, je pense, dans la Ligue professionnelle allemande pendant
une
saison.
Dans la SHL aussi, en Suède, exactement, oui.
C'est ça, puis après ça, ben, Dan Bazma a dit « Écoute, j'ai un poste à t'offrir comme adjointe dans la Ligue américaine ». Elle a fait ça pendant deux saisons. Dan Bazma a pris le poste d'entraîneur-chef du Kraken au cours de l'été, puis a amené Jessica Campbell avec lui parce qu'il dit « Je l'ai vu agir avec les joueurs, c'est une communicatrice, quelqu'un qui est capable de se mettre dans leur patin puis de comprendre un peu ce qu'ils vivent, puis de comprendre leurs émotions. Tu sais, un rôle d'adjoint, c'est aussi ça, là. C'est de jouer le bon cop un peu, le contraste avec l'entraîneur-chef quand il y a des moments peut-être plus difficiles. Elle est bonne pour faire ça. Elle pilote l'avantage numérique. Hier, je pense que c'est deux buts contre le Canadien qui
a des avantages. Même, je crois, trois buts.
Le désavantage numérique du.
3 en 6.
3 en 6, 50% contre un désavantage numérique qui connaissait un très bon début de saison, là, qui était parmi les meilleurs de la ligue.
Ben, en fait, il y avait trois buts d'accordés avant le match par les Canadiens. Il y en a eu trois par le Kraken.
C'est-tu assez la preuve à quel point ça a été mal pour les Canadiens hier, que tout a déraillé, ce que tu viens de dire? Là.
Ou à quel point Jessica Campbell prépare un excellent avantage numérique?
Effectivement.
Il peut avoir ça, mais non, c'est ça. Donc, c'est un parcours qui est un parcours similaire à n'importe qui est l'entraîneur-chef, tu sais, qui ben, pas entraîneur-chef, mais
entraîneur, ouais, c'est ça.
Qui essaie de gravir les échelons jusqu'à la grande ligue. Fait que, tu sais, tu mets la feuille de route de Jessica Campbell sans nom à côté de la feuille de route d'un autre entraîneur, puis je veux dire, oui, c'est un parcours qui est différent parce que c'était des services privés, puis après ça, ben, on est allé en Europe pour faire les premiers pas, mais quand même, tu sais, il y a pas de favoritisme parce que c'est une femme, puis on veut faire, tu sais, c'est une personne qui a fait ses preuves, qui était prête pour ce défi-là, puis qui le relève jusqu'à maintenant avec beaucoup d'aplomb.
Elle n'a pas été parachutée à ce poste-là. C'est Dan Bylsma qui l'a approché, qui passait des adjoints en entrevue. Son nom lui avait été soumis. Il l'a rencontré en entrevue, puis elle a eu l'emploi. Ce n'a pas été un parachutage de quelqu'un sans expérience, sans qualité qui a été fait pour les relations publiques.
Je lisais un peu sur son parcours, justement. Puis, bon, elle était avec les Ice Tigers de Nuremberg dans la DEL, comme on dit, la Ligue en Allemagne. Puis à la base, c'était une entraîneuse de patinage, de, tu sais, ton coup de patin,
power skating. Tout
ça. Power skating, comme on dit en bon français. Puis l'entraîneur-chef là-bas, Tom Rowe, une journée est arrivé, puis il a dit: en passant, Jessica, t'es adjointe à soir. T'es sur le banc. OK. Non, c'est tu t'en viens sur le banc, on a besoin de toi. C'était ça. Puis ensuite, quand tu dis, c'est justement ça, c'est que le parcours, au final, là, un entraîneur, son parcours va être décidé par les gens qui décident de croire en toi. Peu importe la qualité, si les gens autour de toi ne croient pas en toi, décident pas de t'ouvrir les portes. Mais après ça, que Dan Bylsma la prenne et l'amène dans la Ligue nationale de hockey, ça se voit pour un coach. Un coach qui fait suivre ses adjoints, c'est aussi normal que de mettre de la relish, de la moutarde et du ketchup dans un hot dog.
On en reparlera de ça.
Ouais, t'as pas la même définition de la normalité que nous.
Moi, je rajoute de la mayonnaise. Là, vous me jugez quand je fais ça, les gars, c'est votre choix. Mais relish, moutarde, c'est normal. C'est normal, ce parcours-là. Ensuite, il y en a d'autres qui vont dire: ah, mais elle n'a jamais joué avec des hommes, elle ne sait pas c'est quoi. C'est vrai, c'est vrai. John Cooper.
Ben, elle a joué avec des hommes dans les rangs mineurs pendant toutes ces années.
Effectivement, mais tu vas voir où je m'en vais.
Mais pas à ce niveau-là.
C'est ça. John Cooper, là, jamais joué au hockey plus que du juvénile de base. Là, considéré comme un des meilleurs, sinon le meilleur entraîneur de la Ligue nationale de hockey. Ken Hitchcock est au temple de la renommée. Ken Hitchcock aiguisait des patins dans sa jeunesse. C'était pas un joueur de hockey. Des entraîneurs, c'est pas... T'sais, Wayne Gretzky, le meilleur joueur de tous les temps, pas été le meilleur entraîneur qui a pu exister. D'ailleurs, ça s'est terminé assez rapidement, sa carrière d'entraîneur. Les qualités que ça te prend pour être un coach ne sont pas les mêmes que les qualités que ça te prend pour être un joueur de hockey. C'est de la communication, c'est de l'enseignement. C'est oui, il y a le principe de comprendre la game, mais c'est pour ça aussi que les joueurs de troisième et quatrième trio souvent font les meilleurs entraîneurs. Parce que si eux n'arrivent pas à comprendre la game, au niveau des habiletés, ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc, c'est là que les joueurs de soutien souvent font les mêmes entraîneurs parce qu'ils n'ont pas eu le choix de comprendre la game, de comprendre comment s'améliorer, sinon ils ne seraient pas dans la Ligue nationale de hockey. Bien, ces habiletés-là, ces qualités-là, bien, c'est ça qu'elle possède, Jessica Campbell. Puis c'est ça qui fait qu'elle a réussi à briser le plafond de verre. Là, après ça, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que, hier, ça a super bien été pour le jeu de puissance du Kraken. Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que... Les Flyers de Philadelphie sont menés par John Tortorella, qui, écoute, il y a une coupe cette année et tout ça. Les Flyers de Philadelphie ont le pire jeu de puissance de la Ligue nationale de hockey depuis 2 ans, les 2 dernières saisons. Personne ne dit John Tortorella n'est pas capable de diriger. Tu peux avoir du succès, c'est son premier emploi dans la Ligue nationale de hockey. Mais je suis tanné d'entendre. Puis écoute, Seb, là, je veux dire, les Hugues, Phil, avec qui on travaille, on a dû faire un travail de gestion des commentaires sur ton texte, Guillaume. Je ne sais pas si tu le savais, mais je te l'annonce. Parce qu'il y avait une coupe de morons.
J'ai entendu entre les branches.
Ben c'est ça, une coupe de morons. Et je vais utiliser le mot moron sans me gêner, qui arrivait avec des commentaires du genre: retourne dans ta cuisine. Hey, le grand, tu es en arrière de ton clavier. Le jour où tu pourras faire ce que Jessica Campbell a fait, même avant d'arriver avec le Kraken, tu viendras commenter à ce moment-là. C'est une belle histoire Elle est là pour les bonnes raisons. Là, c'est à elle de se prouver. Puis, si elle ne réussit pas à se prouver ce coup-ci, c'est pas dramatique. Il y en a combien des entraîneurs qui arrivent dans la Ligue nationale de hockey, puis après ça, retournent en bas, Dan Bylsma le premier. Dan Bylsma a gagné la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh. Après ça, ça a été Buffalo, puis après ça, ça a été la traversée du désert dans la Ligue américaine avant de revenir en haut. Donc,
moi, j'ai bien aimé le commentaire de Dan Bylsma. Une question, je pense que c'était à la toute fin de la mêlée de presse. On lui a demandé, est-ce que tu sentais que... Est-ce que c'est un défi plus grand pour elle d'arriver dans un vestiaire de la Ligue nationale puis de prendre sa place, puis de s'établir, puis de gagner la confiance des joueurs? Puis il a vraiment dit une réponse de quatre mots. C'est le défi de tous les entraîneurs.
C'est ça.
Il a vraiment mis de côté femme, homme, n'importe quoi. T'arrives dans un vestiaire de la Ligue nationale, il faut que tu gagnes le respect de tes joueurs. Puis si elle a réussi à faire ça dans la Ligue américaine, puis là, elle l'a fait dans la Ligue nationale, les joueurs étaient tous très, très...
élogieux.
Positifs, ouais. Élogieux à l'égard de Jessica Campbell. Ben si tu as réussi à faire ça, c'est parce que tu fais quelque chose de bien, puis que tu montres que tu comprends la game, puis que tu es capable de diriger à ce niveau-là.
Puis c'est une équipe qui a bâti son équipe. On a toujours comparé Kraken au Golden Knights avec le repêchage d'expansion. Ont pris une approche complètement différente, ont vraiment bâti par le repêchage à l'interne. Les joueurs qui sont avec le Kraken et qui vont avec le Kraken ont beaucoup passé par la Ligue américaine. Mm-hmm. Jessica Campbell, tu as parlé, c'est vrai que les entraîneurs-chefs arrivent souvent avec leur entraîneur adjoint, mais là, en plus, c'était la même organisation. Donc, il y a déjà un niveau de confort, un niveau de connexion entre les joueurs qui sont arrivés. Il y a plusieurs jeunes joueurs de la formation qui ont déjà côtoyé Jessica Campbell pendant un an ou deux. Donc, ça joue pour elle, en quelque sorte. Puis, cette familiarité-là va l'aider avec... on est Ryker Evans, les Shane Wright, tous ces joueurs-là qui ont déjà vu Jessica Campbell aller. Ça aide. Puis ils peuvent en parler à leurs coéquipiers plus âgés des façons de faire de Jessica Campbell. Et ça aide un petit peu à faire passer la relation au niveau supérieur plus rapidement.
Oui, exactement. Puis, tu sais, au final, là, Dan Bylsma, c'est peut-être sa dernière chance dans la Ligue nationale de hockey si ça ne fonctionne pas. Il n'a pas intérêt à amener avec lui une entraîneuse en qui il n'a pas confiance. En les habiletés, en les qualités de cet entraîneur, de cet entraîneur-là. Donc, tu sais, lui aussi, sa tête est sur la bûche, là, Bylsma, là, au niveau de sa carrière, parce que ça a été long dans la Ligue américaine avant de revenir en haut. Donc, s'il amène Jessica Campbell, c'est qu'il a pleinement confiance en ses moyens. Puis là, après ça, ben ça, là, c'est à eux de mettre en place un système qui va fonctionner pour le Kraken. Tu parlais de jeunes joueurs.
J'ajouterais...
Oui, vas-y.
Juste avant de conclure ce chapitre-là, j'ajouterais que l'environnement que le Kraken a créé, la culture d'équipe, je pense que ça fait en sorte que peut-être la transition s'est mieux faite parce que autour de cette équipe-là, dans les communications, les gens vidéo, etc., etc., autour du vestiaire du Kraken, on l'a vu lundi, tu sais, il y a toutes sortes de gens qui travaillent autour de cette équipe-là. Il y a de la diversité au pied carré, puis ça saute aux yeux parce qu'on s'entend que dans la majorité des vestiaires de la Ligue nationale, à part des hommes blancs, c'est plus rare qu'autre chose.
C'est la majorité.
C'est ça, il y a pas beaucoup de diversité, tandis que le Kraken a mis l'accent là-dessus dès sa fondation. Le propriétaire a dit que ça va être un de nos chevals de bataille parce que la ville de Seattle est une ville ouverte, une ville diversifiée et tout ça. Je pense que l'environnement que le Kraken a créé, il faut que tu adhères à cette culture-là si tu joues pour cette équipe-là. Puis je pense que ça aide justement à dire, vous voyez, on a une femme comme adjointe, puis that's it. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis il n'y aura pas de niaisage de « mm-hmm. on n'accepte pas ça », puis etc., etc. Je pense que la culture et l'environnement que le club a créé autour de ce groupe-là, ça a aidé Jessica Campbell à faire la transition aussi.
Oui, puis à convaincre tout le monde d'ouvrir cette porte-là. Là. Tu sais aussi...
Oui, puis elle disait, tu sais, moi, je me présente à l'aréna tous les jours, puis je suis entouré de femmes puis de gens de différents backgrounds. À le souligner, là, ça aide aussi pour elle à se mettre à l'aise, mm-hmm. et tout ça. Donc, je voulais juste le souligner parce que c'est quand même quelque chose qui me sautait aux yeux là, pendant l'entraînement de lundi.
Ouais. Seb, tu parlais de jeunes joueurs justement qui ont fait le saut des Firebirds de Coachella Valley au Kraken. Shane Wright qui est dans cette liste-là. Guillaume, tu as parlé aussi à Shane Wright, début dans la Ligue nationale. Bon, lentement mais sûrement pour Wright, je pense que de toute évidence, il y a encore un grand pas à faire au niveau de faire transitionner son jeu offensif de la Ligue américaine à la Ligue nationale de hockey. Tu sais, hier, Wright, malgré les 8 buts, je pense, n'a pas sauté à tes yeux. C'est quoi les principaux défis de Shane Wright, là, alors qu'il, tu sais, c'est un quatrième choix au total, ça vient avec une certaine pression, surtout qu'avant ce repêchage-là en 2022, était vu comme un quasi-prodige. T'sais, ça vient avec beaucoup de pression. Wright, présentement, comment il gère ça, cette situation-là?
Ben, j'ai remarqué peut-être un peu plus de maturité dans sa manière d'aborder les choses. Là. Il disait, oui, c'est certain que tu vas tout le temps être comparé aux autres joueurs de ta QV, aux Juraj Slafkovský, Logan Cooley et compagnie. Mais on dirait qu'il a vraiment tourné la page, puis il s'est dit, regarde, moi, j'y vais à mon rythme. C'est pas tout le monde qui se développe au même rythme. Je vais prendre étape par étape. Il a passé une saison complète dans la Ligue américaine. Participé quand même à deux longs parcours des Firebirds dans les deux dernières années en série. Donc, il arrive quand même avec une expérience, avec la confiance d'être capable de produire au niveau professionnel. L'an dernier, c'est 22 buts, 47 points en 59 matchs, ce qui est quand même pas à négliger. Puis je pense qu'en série, c'était plus d'un point par match, là, légèrement au-dessus, 13 points en 12 matchs. Il a acquis cette confiance-là sous les ordres de Dan Bylsma, qui est rendu entraîneur-chef du Kraken. Maintenant, on lui dit, bon, c'est ta première saison complète dans la Ligue nationale. On l'a placé au centre du troisième trio pour le moment, donc c'est pas nécessairement un rôle ultra offensif. J'ai eu l'impression que Bylsma cherche encore à placer les pièces du casse-tête là, pour donner un petit peu de soutien à Shane Wright, puis vraiment le mettre confortable dans son rôle, puis de définir son rôle surtout. Fait que tu sais, je pense que lui a tourné la page sur les comparaisons, est-ce que tu vas être un joueur étoile dans la Ligue nationale et tout ça. Il se dit, je vais devenir le joueur que je vais devenir au rythme que ça va prendre. Puis, ben, on va voir les résultats. Pour le moment, ça ne se traduit pas en une production mm-hmm. Vraiment impressionnante. Là, c'est un but, une passe en 10 matchs. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux, là, la maturité. Puis on dirait que c'est un joueur... On l'avait vu un petit peu frustré au repêchage, puis il avait vraiment le couteau entre les dents. Je vais faire mentir ceux qui m'ont ignoré, etc. etc. J'ai senti qu'il avait tourné la page sur ça, puis qu'il est vraiment rendu au point de se dire, ben, je vais devenir le joueur que je suis supposé devenir, puis on verra dans le temps, comme on dit.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand après avoir été repêché, il y avait eu beaucoup de discussions sur les choix du Kraken pour son développement. On l'avait gardé à Seattle, mais jouait à peu près pas, s'entraînait avec l'équipe, prêté à la Ligue américaine pour mise en forme. Après ça, il était retourné au niveau junior, il était allé jouer avec l'équipe Canada, il était revenu de la Ligue américaine pour participer aux séries éliminatoires. Donc, comme quoi que les parcours de développement d'un joueur à l'autre, alors que Slafkovský lui avait passé la saison au complet, ben, jusqu'à ce qu'il se blesse là, à Montréal. Puis aussi, il y avait des critiques sur est-ce qu'on aurait dû aller s'assigner Juraj Slafkovský dans la Ligue américaine. Donc, plein de... Il n'y a pas un parcours similaire. On regarde que ce soit Alexis Lafrenière qui traînait une étiquette de flop jusqu'à la saison dernière. Donc, les joueurs, les premiers, surtout les premiers choix ou les top 5 au repêchage, c'est pas vrai que c'est pas des bons joueurs de hockey, mais qu'il faut qu'on trouve le bon parcours de développement pour ces joueurs-là. Puis, bon, avec Shane Wright, comme Guillaume l'a dit, l'année dernière, la Ligue américaine a affiché une excellente progression. Puis, Dan Bylsma le connaît bien, l'amène avec lui. Puis, je pense que la patience est de mise. Puis, on va voir un joueur qui, comme tu l'as dit, Nick, tantôt, il était considéré comme un premier choix au total. Donc, il y a du talent dans ce joueur-là. Puis, il s'est trouvé la bonne façon de le raffiner, ce diamant-là qu'on a entre les mains. Puis, je pense qu'il ne faut pas que les gens oublient que ça va être tout un joueur de hockey.
Peut-être devenir aussi... Bien, tout un joueur de hockey. On verra bien. Peut-être aussi, il va falloir accepter à un moment donné qu'il va être un joueur plus de rôle. Et moi, je pense tout le temps à Thomas Plekanec. T'sais, Thomas Plekanec était sur papier un joueur de rôle. C'était le meilleur ou un des meilleurs dans la ligue comme pour ce rôle-là. Par contre, est-ce qu'il y a un potentiel, j'ai juste excusé le upside, là, défensif et offensif, une combinaison pour devenir un joueur qui est aussi bon en attaque qu'en défensive, qui va te donner 65 points, 60 points, mais qui va te sauver 30 buts en arrière, 40 buts en arrière. C'est peut-être ça aussi, Shane Wright. Je pense qu'on est vraiment en train d'essayer de comprendre c'est quoi le rôle, le moule qu'on peut faire avec Shane Wright. Donc, ça, visiblement, on en a pour quelques années avant de tout ça. Mais bon, il y a seulement 20 ans aussi, hein, Guillaume?
Seulement 20 ans.
Moi, ce que je vois moi, depuis tantôt que tu parles de Plekanec, c'est qu'il va jouer avec un col roulé. Donc, c'est tout ce que j'ai retenu de ton affirmation.
En terminant, Brandon Montour, hier, taux du chapeau pour un défenseur. Tu sais, quand on disait que ça a été difficile pour les Canadiens, là, quand un défenseur qui fait un taux du chapeau de l'autre côté, c'est que la soirée a probablement été longue. Mais Brandon Montour, à date, là, probablement la meilleure acquisition sur le marché des joueurs autonomes. À part Stephen Nosen, pour pas très cher chez les Devils du New Jersey, mais Montour, avec la blessure de Vince Dunn, qui prend tellement d'importance, parce que là, il est sur la première vague d'avantages numériques. Hier, 3 buts, là, il a 9 points en 10 matchs. Discuter un peu de Montour, je lui ai parlé après le match, j'ai parlé avec Balzma justement. Puis ce qui est intéressant avec Montour, c'est qu'il amène avec cette équipe-là, qu'il amène avec le Kraken, une attitude de gagnant. Gagnant la Coupe Stanley l'année dernière, est allé en finale l'année d'avant. C'est un joueur qui, offensivement aussi, a la possibilité de produire peut-être pas à la même hauteur que ce qu'il faisait avec les Panthers parce qu'il n'est pas aussi bien entouré, mais ça va être un joueur qui va peut-être être celui qui va... Tu sais, oui, Kraken a fait les séries, là, mais c'était peut-être plus accidentel. Là, tout le monde joue un peu en haut de sa tête. Mais tu sais, peut-être le premier pilier pour lancer cette équipe-là pour les années de succès, la fin de la construction, on ne peut pas dire reconstruction pour le Kraken, la construction du Kraken... C'est peut-être là où un Brandon Montour va être le général d'expérience de cette équipe-là. Surtout qu'on nous parlait hier, on disait au-delà des points, c'est surtout son attitude. Il est relax, il est positif qui amène dans le vestiaire. C'est un gros plus. Guillaume, tu l'as vu hier, Montour, il y a une touche offensive qui n'est pas donnée à tous les défenseurs, qui peut-être même Vince Dunn, je ne suis pas prêt à dire que Vince Dunn dans le même œil offensif que Montour, là, on l'a vu, entre autres sur ce jeu chorégraphié sur son deuxième but.
On s'est pas caché. Oh, vas-y, Guillaume.
Non, mais j'allais juste dire que Montour peut amener aussi un élément de robustesse, puis c'est un défenseur qui peut être méchant par moment. Là. On l'avait vu en série avec les Panthers aussi l'an dernier. Puis je suis pas surpris d'entendre les joueurs du Kraken vanter son caractère, son attitude dans le vestiaire, parce que avec les Panthers, c'était exactement ça aussi. Là. Même je me souviens en finale de la Coupe Stanley, quand les Panthers ont perdu leur avance de 3-0, c'était rendu 3-3, puis on allait dans le vestiaire, Brandon Montour, il y avait pas l'air d'un gars très stressé. Là, on dirait que c'est un élément qui amène du calme, qui permet à tout le monde de se poser un peu dans un vestiaire. Puis avec toute cette expérience-là, ben, d'arriver dans la chambre du Kraken puis d'essayer d'amener cette équipe-là à la prochaine étape, ben, je pense que non seulement sur la glace, mais à l'extérieur, je suis entièrement d'accord avec ce qui sortait du vestiaire du Kraken, c'est un élément indispensable peut-être pour cette saison-là. Là.
Puis, on ne s'est pas caché à Seattle cet été, quand ils ont fait des emplettes, on a acheté de l'expérience. C'était Brandon Montour, Chandler Stephenson. C'est des joueurs qui ont gagné la Coupe Stanley très, très récemment. Puis jusque-là, je pense, faudrait que je regarde, je pense pas qu'il y avait beaucoup de champions de la Coupe Stanley, à part Yanni Gourde peut-être. Puis quand on a rencontré Yanni Gourde cet été au Pro-Am Sun Life à Québec, lui, il se réjouissait là, d'avoir l'arrivée de joueurs qui savaient comment gagner. Parce que c'est des choses que les équipes ont... L'année après année, là, les joueurs n'arrêtent pas de parler d'apprendre à gagner. Puis c'est important d'apprendre à gagner, d'aller faire des bouts de chemin en série. Puis comment c'est difficile à expliquer comment apprendre à gagner. Puis d'avoir avec lui deux autres joueurs qui avaient été jusqu'au bout puis qui avaient fait plusieurs finales autour des dernières années dans un vestiaire, je pense que ça fait beaucoup de bien.
Je pense on amène aussi Dan Bylsma, on en parle depuis tantôt, un entraîneur d'expérience qui a gagné la la Coupe Stanley. Il a perdu. Bon, c'est, tu sais, avec Coachella Valley, il a amené quand même le club en finale pendant deux années de suite. On a perdu chaque fois, mais quand même, tu sais, c'est assez clair la direction que le Kraken a pris pendant cette saison morte-là. On veut une équipe qui sait comment gagner.
Je pense répondre à ta question, Seb. Je pense qu'il y a juste Vince Dunn aussi, à part Gourde, qui a gagné la Coupe Stanley dans cette équipe-là. Donc,
ouais, avec les Blues.
Avec les Blues en 2019. Donc, tu ajoutes Stephenson, tu ajoutes Montour. Tu viens de doubler là, ton nombre de joueurs ayant mis la main sur le gros trophée. Donc, attends, Jared McCann.
Les gars,
oui, vas-y.
Je veux juste souligner que Chandler Stephenson, le joueur préféré de notre collègue Philippe Landry, a amassé 4 mentions d'aide hier dans le match contre les Canadiens. Je m'en serais voulu de ne pas le souligner. Là. Je pense qu'il me l'aurait dit.
Il va te glisser un 5$ en dessous de la table pour en fin de semaine. Je suis pas mal certain, surtout que tu t'en vas à Nashville.
Ce ne sera pas dans des fonctions professionnelles.
Non, c'est ça, exactement. Donc, on sait qu'à Nashville, pas mal sûr qu'il va te payer une bière. On ne sait juste pas où.
Ça devrait.
Au Roberts avec un recession special.
Au Roberts, au Tootsies. C'est pas les options qui manquent du côté de Nashville. Fait qu'on va te souhaiter une bonne vacance, Guillaume.
Merci beaucoup. Merci, ça ne sera pas reposant.
Non, exactement. Tu vas revenir plus fatigué quand tu es parti, mais c'est ça la réalité de... Tu vas au football? Tu vas aussi?
On s'en va voir Predator Avalanche samedi, ce qui promettait en fait avant le début de la saison d'être un excellent spectacle. Là, les choses semblent se replacer quand même de ce côté-là. Donc, on va espérer un bon spectacle, puis on s'en va voir. Je connais pas grand-chose au football, mais ça a l'air que ça va être un atroce duel entre les Titans et les Pats dimanche. Deux équipes qui sont pas parmi les puissances de la Ligue, là, selon ce que j'ai compris.
De toute façon, tu vas dormir dans les estrades si le party a été assez actif.
Une sieste à l'extérieur. Là, ouais, c'est toujours la forme.
Une sieste à 400$, c'est tout le temps c'est tout le temps gagnant. Hey, Guillaume, merci d'avoir été là sur le balado aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Salut, Guillaume.
Seb, nouvelle de dernière minute qui vient tout juste de tomber. Connor McDavid, on le sait, s'est blessé lors du match de lundi contre les Blue Jackets de Columbus. Et là, le verdict vient de tomber. Absence de 2 à 3 semaines pour McDavid. C'est un dur coup pour les Oilers parce que, bon, les Oilers, on cherche notre rythme depuis le début de la saison et c'est rarement... la meilleure façon de le faire, c'est rarement quand tu perds ton meilleur joueur. Donc...
C'est une mauvaise nouvelle parce que oui, on va, comme tu le dis, ça va pas bien chez les Oilers puis on cherche notre rythme, mais c'est une entre guillemets bonne nouvelle parce que bon, on a une durée quand même relativement courte de 2 à 3 semaines.
Ouais, ça aurait pu être bien pire, ouais.
Mais effectivement, écoute, les Oilers, c'est très bizarre là, comment ça se passe présentement. Si on regarde les statistiques avancées, je sais que tu as un féru de statistiques avancées, Nick.
Toujours.
Ils sont dans les meneurs pour les tentatives de tir, les chances de marquer en zone dangereuse, les buts attendus, à peu près dans toutes les catégories, sauf les buts. Où ils sont bons derniers. Donc, c'est un paradoxe là, complètement aberrant quand on pense à tout le talent qu'il y a chez les Oilers.
Mais c'est la même chose que l'année dernière. C'était ça aussi en début de saison l'année dernière. Au niveau des statistiques avancées, les chances de marquer, les chances dans la zone dangereuse, puis tout ça, les Oilers, c'était parmi la crème de la Ligue nationale, mais pas capable de la mettre dedans. Et là, l'histoire se répète encore, c'est-à-dire qu'on se souvient l'année dernière, McDavid avait été blessé en début de saison. Là, c'est encore une fois ce qui arrive. La bonne nouvelle chez les Oilers, c'est qu'on sait comment gérer, techniquement, on sait comment gérer cette situation-là. On l'a vécu l'année dernière. Par contre, l'année dernière, c'était Jay Woodcroft qui était l'entraîneur-chef. Là. C'est Chris Knobloch. Ouais. Donc, je pense pas que ce qui est en train de se passer va coûter le poste à Knobloch. Mais bon, on est sans McDavid. Pas la meilleure nouvelle pour un Zach Hyman qui tente de se relancer, lui qui a 1 point en 10 matchs jusqu'à présent cette saison. Puis, je veux dire, lundi, c'était une défaite de 6-1 contre les Blue Jackets. Si ça, c'est pas un réveil, ajoute à ça McDavid. Va peut-être falloir changer les priorités puis changer notre manière de jouer chez les Oilers parce que, visiblement, écoute, crée moins de chances, mais crée les bonnes.
Oui, puis écoute, c'est ça passe par la façon qu'ils vont jouer à 5 contre 5. Même si on se rend compte qu'on crée davantage de chances qu'on en donne, l'avantage numérique qui présentement fait partie des pires de la Ligue nationale à 13,8%, c'est toutes des aberrations statistiques.
Ouais.
Mais c'est pas des aberrations qui vont se corriger facilement sans la présence de Connor McDavid pendant 2 à 3 semaines. On va devoir, oui, les entraîneurs vont toujours le dire, c'est une chance pour d'autres joueurs de lever leur jeu d'un cran, d'avoir plus de responsabilités. Et bon, on n'est pas dépourvu de talent non plus. Juste dans le match de lundi contre les Blue Jackets, en avantage numérique, c'est Victor Arvidsson qui a pris le relais sur la première vague du jeu de puissance. On a des options. Est-ce que c'est Jeff Skinner qu'on veut voir là? Est-ce qu'on laisse Victor Arvidsson? Et on a encore des joueurs comme Zach Hyman, comme Leon Draisaitl, comme Evan Bouchard, comme Ryan Nugent-Hopkins. Donc, cet été, on a ajouté beaucoup de munitions offensives à Edmonton plutôt que se concentrer sur la brigade défensive. Mm-hmm. Et là, ça nous donne dans l'idée d'avoir plus de profondeur, de pas toujours dépendre de Draisaitl et McDavid. Et là, on a la chance peut-être de montrer que cette profondeur-là va les servir dans les prochaines semaines.
C'est là où il faut que ça paye.
Exactement. Donc, ouais. Ce sera à vérifier, à voir. C'est une situation à garder à l'œil. Pooleurs également, soyez à l'affût de qui va s'accrocher à la première vague du jeu de puissance. Ouais. Pour les prochaines semaines.
L'impression qu'on va avoir un texte Poolers sur le site web qu'on va pouvoir consulter. Super, tu parles des Oilers. Il y a aussi Devant le filet que ça ne fonctionne pas. Stuart Skinner qui connaît un très difficile début de saison alors qu'on le voyait probablement représenter le Canada à la confrontation des quatre nations. Donc, tu sais, ça fait quelques semaines là, qu'on parle de la confrontation des quatre nations qui vont être les gardiens du Canada. Je me suis dit, écoute, aussi bien demander à un expert en la matière, un intervenant qui a vécu ça, qui a joué dans le National Hockey, qui a représenté le Canada, Martin Biron. Donc, écoute, on l'accueille avec nous aujourd'hui pour sur le balado. Salut Martin, comment tu vas?
Ça va bien. Hein? Je vais te dire, là, ça fait quoi? Quasiment un mois, là, la Ligue a recommencé. Puis on a de l'action. On a de l'action de tous bords, de tous côtés. Puis surtout, ben, nous autres, la division Atlantique avec le Canadien, les Sénateurs, les Sabres de Buffalo, c'est pas mal serré, fait que c'est le fun.
T'es analyste à MSG pour les matchs des Sabres de Buffalo, on te voit RDS, on te voit à TSN, ouais. Tu suis vraiment ce qui se passe partout aux quatre coins de la Ligue. Il y a quelques gardiens qui pourraient peut-être justement représenter le Canada dans la section atlantique, mais partout, on est loin de ton époque. Écoute, je me souviens de ton époque, c'était Kingpin par-dessus Kingpin. T'sais, toi qui rentrais dans la Ligue, t'essayais de t'insérer là-dedans à travers les gros noms qu'il y avait partout. Et là, c'est tellement, mais tellement différent le statut des gardiens cette année. Il n'y en a pas un qui, quand je regarde les statistiques présentement, qui semble vouloir s'élever au-dessus du lot. Premièrement, t'arrives-tu à croire où on en est rendu au Canada? T'sais, on dit tout le temps, ah, c'est cyclique, mais à un moment donné, la roue tourne, elle tourne carrée là, présentement là, au Canada pour le développement des gardiens.
Oui, bien, regarde, on va commencer au Québec. Là. Je pense, dans le temps, moi, on riait tout le temps, moi puis Marc Denis, on parlait, puis on disait, on ferait même pas équipe Québec. Tu sais, t'avais Martin Brodeur, Patrick Roy, t'avais Roberto Luongo, t'avais Jean-Sébastien Giguère. Ouais, là, nous autres, essaye pas de faire équipe Canada, c'est juste de faire équipe Québec, puis on n'était même pas dans cette équipe-là, fait qu'on riait. Mais, je vais te dire, tu sais, c'est une longue conversation, un long débat sur le développement des athlètes au Canada, surtout les gardiens de but. Tu regardes, les Américains sont en avance, les Européens sont en avance à cette heure. Oui, dans notre temps, on avait les François et Benoît Allaire, mais c'est pas juste ça. Je pense que c'est côté développement, côté maturité, côté patience, côté opportunité. Ça, c'est un autre débat. Alors, on n'en parlera pas là. Mais si tu regardes les gardiens de but canadiens, parce qu'on parle pas juste du Québec, on parle du Canada, c'est difficile. Parce que ce qui me fait rire, là, c'est que moi, je parle d'un gardien de but une journée, puis le soir même, ce gardien de but-là a une mauvaise performance. On parlait de Samuel Montembeau, puis je parlais de Samuel Montembeau, puis je me disais, garde, oui, Jordan Binnington est probablement en avance sur les autres présentement, parce qu'il y a eu la Coupe Stanley, ce qui fait quand même plusieurs années. Là, on regarde, là, c'est pas juste d'une année ou deux. Puis, mais je disais, regardez bien Joel Hofer, là, c'est l'adjoint à Binnington. On peut comparer Binnington, Hofer Binnington avec la même équipe. Puis Hofer, Il a eu un très bon début de saison. Mais là, ben, ça a tout dérapé à Ottawa hier soir. Alors, je me dis, garde, Samuel Montembeault, ça n'a pas bien été. Ofer Bennington, ça n'a pas bien été. Ingram a bien commencé, ça va moins bien. Aiden Hill, présentement, ben là, je dis Aiden Hill, c'est probablement celui qui a le meilleur là, rendement avec sa fiche dernièrement, mais Vegas, c'est une très, très bonne équipe. Alors, je pense qu'il y en a, il y en a beaucoup dans la conversation, mais il n'y a jamais personne qui veut prendre la pole.
Oui, puis c'est ça qui est le plus... qui est vraiment, tu sais, je veux dire, on est rendu à penser... Marc-André Fleury, tu fais comme, ben, tu sais, soudainement, il y a de l'expérience. Parce que là, il y a plusieurs joueurs. Stuart Skinner en est peut-être le celui qui me vient le plus en tête. L'année dernière, mène les Oilers à un seul match d'une conquête de la Coupe Stanley. Mais c'est un jeune gardien qui, somme toute, l'échantillon est tout petit. À Aden Hill, ouais, l'échantillon est tout petit parce que les gars sont plus dans le filet 60-70 matchs comme quand toi, tu étais là. Ça aussi, on dirait que Ça nuit un peu au jugement, à notre jugement, parce que, comme tu disais, soudainement, ils embarquent dans le filet un soir, ils se font planter, puis là, tu fais comme, ben oublie ça, Connor Ingram, oublie ça, Samuel Montembeault hier. J'ai de la misère. C'est tellement facile pour les dirigeants de l'équipe américaine présentement, quand je compare à celle de l'équipe canadienne. Tu sais, t'as 6 candidats, là.
Ouais. Et les meilleurs gardiens de but sont russes aussi. Ils seront pas là. Les Russes sont pas au tournoi des quatre nations. Alors, mais tu sais, les Finlandais sont bons dans le filet. Les Suédois vont être très bons dans le filet. Alors, c'est sûr. Puis l'autre chose qui est vraiment bizarre, spéciale, puis qui va être intriguant là, à voir, c'est que les alignements vont être annoncés à la fin novembre. Fin novembre, début décembre. Il faut que ça soit annoncé avant le 2 décembre, je crois. Mais là, la manière que les gardiens de but canadiens vont, peut-être qu'un gardien de but canadien va être meilleur en janvier et en début février, lorsque le tournoi va commencer, que présentement en novembre et ne sera pas nommé à l'équipe à la fin novembre. Alors là, tu te dis, voyons, c'est tellement là, tu sais, de prendre une décision aujourd'hui puis de pas savoir comment que ça va être les choses dans 2 mois, c'est difficile. Les Américains, ils savent. Hellebuck, ils savent. Ottinger, ils savent. Swayman, ils savent. L'autre, c'était probablement Thatcher Demko, mais il est encore blessé, probablement qu'ils ne le prendront pas. C'est normal. OK, c'est beau. T'en avais 4, t'en prends 3, tu y vas. Tu sais, la Finlande, la Suède, ils savent c'est qui vont prendre. Le Canada, tu n'as aucune idée. Tu peux en prendre 3, puis ça peut être 3 un jour, puis 3 un autre jour.
Le format du tournoi, très, très court, 3 matchs, il faut l'en gagner, il faut finir dans les 2 premiers. Est-ce que ça orienterait ton choix sur un gardien? On a parlé de ceux qui ont gagné la Coupe Stanley d'un avenir pas si lointain, Darcy Kuemper, Aden Hill, Stuart Skinner est passé proche. Est-ce que ça orienterait ton choix d'avoir à miser sur un gars qui a gagné récemment dans un tournoi qui est si court?
Bien, présentement, au mois de novembre, peut-être que oui, de dire, regarde, là, on va axer ça sur l'expérience, les gars qui ont gagné. Mais lorsque j'arrive à fin janvier, début février pour aller au tournoi, je me dis, OK, c'est lequel qui joue le mieux présentement. Tu sais, prendre ton choix en novembre, c'est une chose, mais prendre le choix du gardien de but partant lors du premier match, c'est un autre. Moi, je prends le joueur, même si c'est juste une semaine. Tu sais, tu dis, ah ben, la semaine dernière, lui, il allait bien, les deux autres allaient moins bien. Bon, ben, c'est lui que je commence. Tu sais, à moins qu'il y en ait un qui vraiment se démarque de la gang, mais présentement, il n'y a pas personne qui se démarque. Alors, j'anticipe qu'en février, ça va être la même chose. Il n'y a pas personne qui va se démarquer. Si tu en as 3-4 à prendre, ben, c'est celui-là qui est le plus hot dans ce moment-là qui va commencer.
En plus, on rajoute les blessures là-dessus. Les gardiens, c'est de plus en plus fragile, ou du moins, c'est tellement demandant maintenant. C'est un Aden Hill va inévitablement, on dirait, chaque année, passer une dizaine de matchs sur la liste des blessés, tout ça. Ça se pourrait que finalement, le joueur que tu vas aller chercher pour remplacer un des 3 gardiens début février, hey, ça soit lui ton numéro 1 rendu au tournoi, là, si on prend le gars qui est le plus hot.
Tu n'as pas le choix. Puis, comme tu le dis, il y a peut-être des blessures, il y a peut-être des contre-performances, ce qui va sûrement arriver. Parce que quand tu as évalué les gardiens de but aussi, il faut les évaluer dans leur équipe, dans le système qu'ils jouent. Tu sais, évaluer Samuel Montembeault, c'est un peu plus difficile qu'évaluer Aden Hill. Aden Hill, Vegas sont bons. Ils ont une bonne défensive. Mais peut-être que tu dis, bon, ben, Team Canada, équipe Canada, ils vont avoir une maudite de bonne équipe. Alors, puis ils vont avoir une bonne défensive. Alors, peut-être que ça l'aide plus Aden Hill, qui est habitué de jouer en arrière d'une bonne défensive. Puis c'est pas comme un Samuel Montembeault qui voit des chances de marquer gauche-droite, gauche-droite. puis qui doit performer au-dessus de sa tête à tous les matchs. Alors ça, c'est une autre manière d'évaluer les choses. Qui va avoir, qui joue présentement dans une situation qui ressemble plus à la situation qu'Équipe Canada va avoir lorsqu'ils vont arriver au tournoi?
Est-ce que on a tellement d'incertitudes, de points d'interrogation, des jeunes gardiens, des gardiens qui n'ont pas un long échantillon, est-ce que d'avoir une espèce de Marc-André Fleury qui, dans le pire des cas, serait-on peut-être troisième gardien, mais qui est le coéquipier ultime, que l'expérience de ces tournois-là internationaux, de ces grands événements-là, est-ce que c'est une espèce de comme tu l'as dit, faut faire des choix en début décembre. Est-ce que d'avoir une espèce de soupape de sécurité comme ça, ce serait une option pour toi?
C'est une option à explorer, mais c'est aussi l'option qu'en 2026, tu as les Olympiques.
Ouais.
Alors, est-ce que tu veux amener quelqu'un pour lui donner l'expérience d'une compétition internationale, de connaître les joueurs avec qui il va peut-être qu'ils vont jouer? Alors, je me dis, est-ce que tu amènes un vieux de la vieille? Excuse-moi, Marc-André, je suis plus vieux que toi. Mais est-ce que tu amènes un vieux de la vieille à cause de l'expérience, c'est un bon gars qui va aider? Ou est-ce que tu amènes un jeune qui va prendre l'expérience parce que tu le vois dans les plans de 2026 ou peut-être même 2030. Mm-hmm. Ça, c'est, encore une fois, à l'interne, une discussion que tu dois avoir avec les dirigeants, avec les entraîneurs. Et je pense que, moi, si j'étais Team Canada, j'irais plus du côté de vouloir amener un jeune et donner l'expérience si c'est pour être un troisième. Là, si, mettons, le mois de novembre, là, Marc-André Fleury, je ne sais pas, il arrive quelque chose à Gustafsson, il se blesse ou il ne performe pas aussi bien, puis Marc-André joue 7 ou 8 games en novembre, puis il est vraiment bon, mais là, tu dis, OK, peut-être qu'il peut être un des deux premiers, mais si c'est pour être le troisième, je pense que j'amènerais un jeune pour lui donner l'expérience.
Surtout qu'il n'y a tellement pas eu de compétition internationale dans les dernières années qui regroupait les gars de les joueurs de la Ligue nationale de hockey. Si tout le monde part ou presque là, avec une feuille blanche. Peut-être juste justement Montembeault puis même Offer qui ont été présentés au Canada au championnat du monde, mais sinon pas, sont pas nombreux. Si, mettons, je t'annonce que tu es directeur général de Team Canada, d'Équipe Canada, Martin, tu fais quoi comme sélection à ce moment-ci? Oses-tu le faire ou tu démissionnes?
Ben, je vais prendre la job, écoute. Je dirais pas non. OK. Si j'étais pour prendre mes choix aujourd'hui, je pense que mes choix seraient Jordan Binnington, Aiden Hill, et j'ai bien de la misère à dire le troisième, mais je considérerais Stuart Skinner parce que je pense qu'il va se replacer. Écoute, il ne peut pas, avec la... Il a eu un mauvais début de saison l'année passée, il s'est replacé, il est allé en finale de la Coupe Stanley. Un mauvais début de saison cette année, d'après moi, il va se replacer là, un peu au moins pour dire qu'il est ton troisième, mais je pense que tu dois aller avec Binnington et Hill avec l'expérience. Probablement Stuart Skinner. Mais encore une fois, là, tu sais, je donne l'avantage aux trois autres pays dans le filet. Peu importe les choix de trois. Avec UC Saros, avec Jacob Markstrom, avec Linus Ullmark, avec les Américains. Je donne l'avantage aux trois autres pays dans le filet.
Non, ça, c'est sûr et certain. Il va falloir. Je pense que le Canada va falloir qu'il gagne des matchs en dépit de ses gardiens, probablement. En même temps, c'est tellement court. Tu l'as déjà vu, les tournois de la Coupe Memorial, un gardien qui rentre, qui gosse à la tête. Tu l'as vécu à 87, malheureusement, c'était ton coéquipier.
C'était Christian Bonsoir, qui était là. Mais il a fait la même affaire. Écoute, c'est ça qui va arriver. Mais l'autre chose aussi, c'est que les dernières années là, d'Équipe Canada, avec les joueurs de la Ligue nationale, aux Olympiques, à la Coupe du monde, quand ils ont fait la Coupe du monde, tout le monde disait, bon, OK, ils ont Carey Price dans le filet. Ils n'ont pas besoin de Carey Price. Ils ont tellement une bonne équipe, n'importe qui pourrait gagner avec Canada. Mais là, c'est comme c'est, faut que tu le prouves. Faut que tu sois capable de prouver que ce que tu as dit dans le passé, pour vous autres, que dit que les gens disaient dans le passé, que Équipe Canada peut gagner peu importe le gardien de but dans le filet. OK, prouve-les là. Prouve-les que tu es tellement dominant au centre avec McDavid, avec McKinnon, avec Crosby, à la défense, avec Kel McCarr. Prouve-les que tu es tellement dominant dans les autres aspects que dans le filet, tu es capable d'avoir un Bennington ou un Aiden Hill pour faire la job.
Oui, ça va être à suivre en février. On parle de Marc-André Fleury depuis tantôt. Hier, c'était son dernier match à en tout cas, ce qui devrait être son dernier match à Pittsburgh. Quand tu regardes la carrière de Marc-André, quand on regarde dans ces années où il a été dans la Ligue, c'est le gardien avec le plus de victoires. Il a des bagues de la Coupe Stanley. Il a lancé la concession à Vegas, tout ça. Ouais. L'héritage, quand tu regardes l'apport de ce que Marc-André a fait au travers des années, tu le mets où dans l'histoire, si je peux dire, des gardiens, dans l'histoire récente, là, bien évidemment? Là?
Ben, temps de la renommée pour Marc-André Fleury, c'est automatique pour moi, mais encore plus que ses statistiques et ses performances sur la glace, c'était juste le gars qui était. C'était un bon gars, c'était un bon travaillant. Écoute, je l'ai, là, parce qu'il m'a battu deux années dans les séries quand j'étais avec les Flyers. On a perdu en finale de conférence en 2008 et en première ronde en 2009. Ils sont rendus en finale, ils ont gagné en 2009. C'était Marc-André qui jouait les deux fois de l'autre bord. Alors, je ne l'aime pas. J'ai jamais bien joué contre Pittsburgh. Et il était toujours de l'autre côté. Puis tout le monde criait Fleury. OK, c'est beau, on arrête, là, c'est assez. Mais non, on blague, là. C'est un gentleman extraordinaire. C'est un bon travailleur, un bon gars d'équipe. Même là, le fait, là, moi, quand je veux des gens dans le temps de la renommée, je veux des gens qui probablement ont eu un impact sur la Ligue, que ce soit statistique, que ce soit leadership, que ce soit dominance, peu importe. Tu sais, Marc-André Fleury, il y a les statistiques. Marc-André Fleury, là, pendant deux ans, il était l'adjoint de Matt Murray, gagné deux Coupes Stanley comme adjoint, puis il s'est fermé à gueule, puis il travaillait. Quand il en avait besoin dans les séries parce que Murray était blessé ou il s'est passé quelque chose, il était là. Tu sais, il a commencé les séries, il lui a donné un boost, Murray est revenu. Tu sais, ça, là, pour moi, c'est un impact. C'est un impact là, qui doit être considéré.
Ça aurait pu être lui qui gagne ces Coupes cette année-là aussi. Là. Tu sais, tout le monde dit que c'était Matt Murray devant le filet, mais je veux dire, Fleury aurait pu les gagner ces Coupes cette année-là avec l'équipe qu'il avait devant lui. Là.
Pas juste qu'il aurait pu, il y a du monde qui dit ce qu'il aurait dû, parce que c'était une décision assez spéciale là, de dire on envoie Matt Murray dans le filet. Pour ça, je regarde la situation de Marc-André Fleury, la première année à Vegas, aller en finale. Il y a vraiment eu un impact positif tout partout ce qui a passé. Alors, c'est un temps de la renommée là, d'ici 4 ans, là, c'est sûr.
Il a été dominant aussi au niveau du joueur de tour. Est-ce que tu as été l'heureux élu d'avoir reçu des mauvais tours de Marc-André dans ta carrière?
Non, ben, on se connaissait, mais pas au niveau de dire là, on va se jouer des tours, malgré que lorsque Jay McKee, qui était un de mes anciens coéquipiers à Buffalo, jouait pour les Penguins de Pittsburgh avec Marc-André Fleury, on est allé jouer à Pittsburgh et les Flyers, on avait été à l'aréna de pratique, puis notre équipement était là. Puis lorsque je suis arrivé dans la chambre, j'ai regardé mon équipement, il était tout dans une boule avec du tape alentour, les jambières, le plastron, les patins, les culottes, les gants, tout. C'était tout dans une boule là, avec du tape alentour. Ça m'a pris 10 minutes de faire ça, puis il fallait être sur la glace dans 15 minutes, tu sais. Alors, mettons que Marc-André Fleury jouait des tours et plusieurs ont appris à jouer des tours en voyant Marc-André Fleury faire ces choses. Je me suis fait avoir aussi, tu sais, la blague là, de mettre les meubles, la chambre dans le corridor, là, ça, là, c'était, ça s'était fait à Pittsburgh. Marc-André avait fait ça avec la gang. À Buffalo, une ou deux années plus tard, j'arrive de souper, j'arrive à l'hôtel. Puis Daniel Brière, c'était mon co-chambreur. Puis lui, avec Chris Drury, Jason Pomainville, puis toute cette gang-là, il avait tout mis mes meubles dans le corridor. Alors, tu sais, c'est un peu la même chose. Sans avoir été victime de Marc-André Fleury, j'ai été victime de l'impact de Marc-André Fleury. Tu sais, c'est ça qui est arrivé.
Un autre précurseur.
Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, c'est intéressant parce que, tu sais, on dit tout le temps, les gardiens, vous êtes un peu bizarre. Hein? Ça ne changera pas. C'est ce que ça prend pour affronter des lancers à 100 000 à l'heure. Il faut que tu sois parfois un peu dans ta tête. Mais justement, Fleury est tellement différent que ben beaucoup de gardiens, je pense que tu es un peu dans cette... Toi aussi, tu es un peu comme ça à travers ce qu'on a vu. Pour une équipe, de voir un gars qui est smooth comme ça devant le filet, mais aussi dans la chambre, à l'hôtel, puis tout ça, ça doit être tellement meilleur qu'un gars qui est toujours stressé. Tu sais, que tu veux pas le déranger la journée de match, tout ça, juste pour calmer les gars et avoir un peu de, tu sais, du leadership silencieux, là, quelque part.
Absolument. Puis, tu sais, il y avait un gardien de but à Pittsburgh dans les années, Tom Barrasso, lui, là, tu faisais un lancer plus haut dans une pratique, il sortait avec des coups de bâton. Si tu. Tu sais, il y avait beaucoup de gardiens de but de même, puis à Pittsburgh, de voir que c'était Marc-André Fleury qui a relaxé tout ça. Ouais. Lui, c'était complètement différent. Puis aussi, là, Marc-André, c'était un des premiers. Tu sais, on voit beaucoup de gardiens de but faire ça. Dans le temps, les gardiens de but, ça sortait pas de leur filet. Tu sais, il y avait un arrêt, un sifflet, un hors-jeu, peu importe. Tu restais là, tu faisais ton run next door, tu tapais tes poteaux, tu cleanais ton air de gardien de but, la neige avec ton bâton. Puis Marc-André, lui, il s'en va, là, il patine vers le coin. Là, oh, il s'en va dans l'autre coin. Puis il patinait tout le temps. Le nombre de jeunes aujourd'hui, qu'ils soient dans le hockey mineur ou qui sont rendus dans le national parce qu'ils ont vu Marc-André Fleury il y a plusieurs années faire ça. Écoute, mon garçon qui joue collégial il y a 20 ans, lui, là, entre les arrêts de jeu, là, il s'en va patiner dans le coin, il patine dans l'autre coin. Et à un moment donné, j'ai dit, comment ça tu fais ça? Ah, j'ai vu Marc-André Fleury faire ça, j'aime ça. Eh bien, voyons, écoute, c'est quoi? J'ai joué pour les Flyers. Tu peux pas te dire, j'ai regardé un goaler des Pingouins. Mais non, c'est l'impact qu'il y a eu. T'sais, c'est des choses comme ça que le monde regarde.
Hey Martin, avant de te laisser partir, il faut parler du début de saison des Sabres, bien évidemment. Ça a commencé un peu, je veux pas dire tout croche, là, mais tout croche en tchèque, ouais. Si je peux dire, parce que la série globale, c'est jamais facile pour les équipes de commencer la saison, on dirait, du côté de l'Europe. C'était plus difficile pour les Sabres. Mais là, ça se replace un peu. On a perdu contre les Panthers, champions de Coupe Stanley. Écoute, c'est pas gênant non plus, mais c'est une équipe qui essaye de trouver son rythme avec un nouvel entraîneur, avec une attaque qui peut se relancer. Présentement, es-tu encouragé par ce que tu vois chez les Sabres depuis deux semaines?
Oui, bien, ils ont fait l'inverse de ce qui habituellement arrive. Regarde, les Devils de New Jersey ont eu l'inverse. Ils ont bien performé là-bas. Ils sont venus, ils ont de la misère en venant. C'est soit un ou l'autre habituellement. C'est ça qui arrive. Soit tu me performes mal en Europe, tu performes bien quand tu reviens ou vice-versa. C'est sûr que quand ils sont venus, ils ont commencé, l'attaque a commencé à se développer, la rapidité de jeu, la simplicité du jeu est revenue du côté des Sabres. Mais le gros point d'interrogation pour moi, Tate Thompson en santé, il marque quasiment 50 buts, sinon il marque 50 buts par année. J.J. Peterka va bien. Ryan McLeod est arrivé, il y a de la rapidité. Darlene, il va se replacer, il n'était pas 100%, mais là on voit le flash. Je pense qu'offensivement, ils vont être très bons. La question du jour, c'est toujours est-ce qu'ils vont être capables de bien jouer défensivement et d'avoir les arrêts nécessaires. Tu sais, Luke Cunnan, il a eu une bonne deuxième partie de la saison l'année passée, mais c'est inconsistant, des hauts et des bas. Levi est encore jeune. Il a eu un très bon camp d'entraînement puis un bon début de saison, mais il a moins bien joué contre Columbus. Puis là, ben, il y en a fait quatre qui n'ont pas joué. T'sais. Alors, je me dis que tu dois les entourer, ces gardiens de but-là. Tu dois jouer très, très, très solide défensivement. Mais les Sabres, c'est toujours, dans les dernières années, été axé sur l'offensive. Et là, Lindy Ruff essaie d'aider à lui donner une identité défensive aussi, ce qui est un peu plus difficile. Mais il y avait eu quoi? Trois victoires d'affilée. Hey, l'année passée, là, je pense, c'était en février la première fois qu'il avait remporté trois matchs d'affilée. C'est la seule fois, je crois. Alors, tu sais, de commencer la saison comme ça, en revenant un peu là, plus là, dans la norme du hockey qui est acceptée pour les Sabres, c'est quand même bien présentement.
Tu as parlé de Lindy Ruff qui revient avec les Sabres. C'est toujours des cycles. Quand une équipe est en reconstruction, on veut un entraîneur qui développe. Après ça, on veut un entraîneur qui va les amener au prochain niveau, un entraîneur qui va les faire gagner. Lindy n'a pas eu la chance d'avoir un camp d'entraînement traditionnel avec le voyage en Europe. Ouais. Ça. Est-ce que le temps que ça va prendre tout mettre en place, c'est encore dans les paramètres que tu t'attendais ou on est un petit peu en arrière de la boule noire?
Non, on est où je m'attendais là. Je me disais le premier mois, 10 matchs lors du premier mois, ils sont 4, 5 et 1. C'est sûr que tout le monde veut être 8 et 2, 9 et 1. Mais, tu sais, ça arrive, c'est difficile. Là, c'est le mois de novembre, OK? Est-ce que tu es capable de vraiment prendre le pas de l'avant? Je pense vraiment que ce que je vois de Lindy Ruff, tu as raison, T'sais, il y avait Don Granato qui était très bon pour l'équipe, très bon pour le développement. C'est lui qui a mis Tage Thompson au centre. C'est lui qui a continué à développer Darlene. Puis après, il a eu Power sa première année. Cousins avait eu une très bonne saison il y a 2 ans. Là, il y a un peu plus de misère. T'sais, Don Granato a fait un bon travail, mais tu avais besoin de quelqu'un un peu plus tough pour vraiment passer un message défensif. Et là, regarde, même le dernier match, là, quand ils ont perdu contre les Panthers, après le match, Lindy Ruff, ah, Nicolas Obi-Kubel, il a manqué son gars lors du premier but. Ça, ça ne peut pas arriver. Oui, OK, peut-être qu'il a pris Obi-Kubel, mais il a aussi parlé d'autres joueurs qui ont, défensivement ont manqué la marque. Souvent, ça se fait pas, mais là, on l'a vu. Quelques exemples, tu sais, Jim Montgomery avec Brad Marchand, Craig Berube avec les Stars à Toronto. Je pense que on est revenu un peu dans le cycle de « Hey, là, on va être tough avec les joueurs, puis on va les caler, puis on va les engueuler un peu pour en demander encore plus. » Tu sais, c'est vraiment là, des cycles de même. Alors, je pense que Buffalo, c'est ça qui se passe présentement.
On suit tout ça parce que, bien évidemment, les Sabres dans l'Atlantique, on va les voir quelques fois cette année. Puis, oui. Ben, écoute, c'est extrêmement serré dans l'Atlantique. Donc, est-ce qu'eux vont être capables de se faufiler par rapport aux autres équipes qui sont là? On va suivre tout ça. Martin, un gros plaisir. Toujours un plaisir de t'avoir sur le balado. On est bien reconnaissant de t'avoir reçu ce matin.
Ah non, pas de problème. J'apprécie tout ce que vous faites. Puis, ouais, on va voir là, qu'est-ce qui va se passer en novembre. Ils disent toujours l'action de grâce américaine, ouais. C'est le premier benchmark. Hein? Ben là, on va être dans le mois de novembre, puis dans 4 semaines, là, on va savoir où les équipes se tiennent.
Yes. Hey, merci, Martin, d'avoir été là.
OK, merci.
Bye. Merci, Martin.
Merci aussi à toi, Seb, d'avoir été mon partenaire aujourd'hui dans cet épisode.
Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Je m'étais ennuyé de toi, je m'étais ennuyé de mon micro ici. Donc, très agréable.
Seb, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, là, on peut lire tout ça sur le site web de lnh.com. Les gens qui nous écoutent, ben suivez-nous. Oui, pour le balado, suivez-nous sur votre plateforme d'écoute, mais suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR, Twitter, Threads, Instagram. On est là-dessus, comme ça vous êtes certains de ne jamais rien manquer. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui et on se reparle très bientôt.